qu'aujourd'hui, je intitulerai le message « La Sainte Seine, symbole de notre communion ». Et notre passage clé, pivot, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 21. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible et vous commencez à vous préparer. Hein, tout à l'heure, on va y revenir sur ce passage. Il y a juste trois points importants que nous allons voir. D'abord, les éléments du symbole de notre communion, que nous allons voir dans le verset 16 de 1 Corinthiens 10. Après, l'explication du symbole de notre communion, versets 18 à 20 de 1 Corinthiens 10. Et terminer par souligner la singularité du symbole de notre communion, verset 17. Parlons de la communion. J'aimerais, comme je viens de le dire, vous amener et regardons ensemble Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Et nous allons imaginer que nous sommes à ce moment-là, là, avec ces personnes qui étaient conviées. Et je dirais donc la communion sur le mont du Sinaï. Exode 24, on ne va pas lire du verset 1 à 18, mais juste verset 1 à 3. Après, on sautera verset 9 à 11. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Et le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Verset 9, « Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. » Et verset 10, « Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. » Ils ne sont pas morts. « Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. » Nous sommes ici donc au mont du Sinaï. Et c'est le moment de la ratification de l'alliance entre Dieu et son peuple. Résumons ce qui s'était passé, parce que le verset 1 à 18, c'est long. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu demande à Moïse de monter avec lui, avec Aaron et les deux aînés de Aaron, donc Nadab et Abihu. Et 70 des anciens ou bien les chefs du peuple. Au total, 75 personnes. Vous dites, mais là, tu ne sais pas faire l'addition. 70 plus 4, ça fait 74. Non, parce que quand vous lisez au Exode 24, verset 13, Josué assistait Moïse. Donc, il citait 75 personnes qui étaient conviées. Donc, les 74 personnes, sauf Moïse, devaient rester à distance de l'Éternel par respect pour sa sainteté et sa majesté. Donc, visualisons les choses. Moïse se rend au sommet de la montagne avec Dieu. Les 74 anciens sont à peu près en bas de la montagne, je dirais un peu plus bas. Et le peuple, tout le peuple se tenait au pied de la montagne. Donc maintenant, Dieu est prêt à confirmer l'alliance mosaïque avec son peuple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lisez le passage que Moïse répéta devant le peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois, et à ce qui s'est appelé le livre de l'Alliance, Exode 24:7. Et après avoir entendu ces lois, le peuple promet de obéir à 100% de tout cœur et de mettre en pratique ce qu'il vient d'entendre de la bouche de Moïse, ce que Dieu lui a dit de rappeler au peuple. Maintenant, nous sommes dans le moment cérémonial de la ratification de la loi. Donc, qu'est-ce que fait Moïse? Il va construire un autel au pied de la montagne et va ériger 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. N'oublions pas, le sacerdoce lévitique, les sacrifices lévitiques, n'ayant pas encore été organisés, ne sommes pas encore là. Et donc, on offrait des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel. Et donc, pendant ce moment de ratification, Moïse va, après avoir tué ces animaux, va asperger du sang sur l'autel, avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus, et aussi sur le peuple. Donc il va asperger du sang sur l'autel et sur le peuple qui avait entendu Moïse lire le livre de l'Alliance, et encore ils ont promis de nouveau qu'ils vont obéir. Donc, il faut retenir, hein, à cette époque-là, le sang aspergé symbolise la transaction entre Dieu, qui est représenté par l'autel, et le peuple représenté par les pierres. Il fallait un sacrificateur, et c'est Moïse qui est le sacrificateur. Donc, quel est, au moment de cette ratification, qu'est-ce que cela signifie pour le peuple? Maintenant, à partir de cette cérémonie, c'est officiellement tranché que le peuple maintenant, c'est le peuple mis à part au moyen du sang pour le vrai Dieu. On symbolisait donc à l'époque la ratification par la ratification de l'Alliance par un repas. C'est ce que je voulais souligner. Donc maintenant, ils vont manger et boire en ratifiant donc cette alliance avec Dieu. Et quelle est la leçon ici? Nous sommes en train de parler des éléments de notre communion, la communion sur le mont Sinaï. La leçon que nous voyons ici, c'est que l'image de la communion est dans le fait de participer au repas. Et cela exprime la communion entre Dieu et son peuple. Le fait de manger avec quelqu'un exprime le fait que je suis en communion avec lui et je le reconnais comme mon frère. Dans la langue française, il y a bien un mot que nous connaissons. Tu es mon copain. Mon copain, c'est-à-dire celui qui partage avec moi le même pain. Et les enfants tout petits, quand ils se fâchent, là, il a pris son jouet. Tu n'es plus mon copain. Et dans la Bible, il y a un incident aussi concernant ce que tu n'es plus mon copain, l'incident Antioche. Hein. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir ici, donc la leçon c'est que par le repas, symbole de la communion, je suis en relation avec Dieu, avec mon peuple, avec Dieu. Et donc nous allons voir qu'il y a aussi un repas, ça c'est dans l'ancienne alliance, mais un repas qui symbolise la communion dans la nouvelle alliance, et c'est ce que nous allons voir maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 16 à 21. Donc la scène comme symbole de notre communion. Donc nous allons lire rapidement 1 Corinthiens 10, versets 16 à 21. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, et vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, parlant du symbole de notre communion d'après ce passage, il y a deux symboles. Vous avez remarqué, le pain et la coupe. Le pain et la coupe. Et vous savez ce qui est frappant dans ce passage? Si vous vérifiez dans le Nouveau Testament, c'est le seul passage qui met en premier la coupe suivie du pain. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion de Christ? Le pain. Tandis que dans les autres passages, dans les évangiles, c'est toujours le pain et la coupe qui viennent en second lieu. Qu'est-ce que l'Esprit veut nous faire souligner dans cet ordre aussi? Tout simplement, La coupe précède le pain parce qu'elle est la base de cette communion. Sans que la vie d'une victime innocente et son défaut soit donné en sacrifice et que les exigences divines soient satisfaites pour nos péchés, il n'y a point de communion possible avec Dieu. Voyez, il veut souligner d'abord que la coupe est la base de cette communion. Donc la communion au sang de Christ, comme il est écrit ici, signifie qu'en prenant la coupe pendant le repas du Seigneur, nous manifestons notre communion basée sur la rédemption, c'est-à-dire la délivrance par le paiement d'une rançon qui est le sang de Christ. Donc quand nous allons prendre tout à l'heure la coupe et le pain, le sang nous rappelle que le Seigneur Jésus a donné volontairement sa vie sous les terribles vagues de la colère de Dieu contre nos péchés. Et combien sont vraies les paroles de Pierre qui disait « Le sang précieux de Christ ». Je tiens à le remarquer, à le répéter toujours, il n'y a rien dans le sang physique de Christ qui peut ôter le péché. C'est sa mort représentée par son sang versé qui a payé la peine du péché et nous a rachetés. Donc je m'arrête tout simplement sur la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Christ. Le passage nous dit qu'en plus de nous avoir délivrés de nos péchés, le sang de notre Sauveur nous a introduits dans une relation avec Dieu qui est tout à fait nouvelle et éternelle. La coupe représente le solide fondement sur lequel repose notre relation avec Dieu, le Père, et c'est le sang de la nouvelle alliance. Vous savez, l'ancienne alliance était inaugurée avec le sang des animaux, comme nous le rappelle Hébreux 9, 18 à 20. En disant, ceci est l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous, dans Hébreux 9, verset 20 et verset 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, il le fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Dans la Sainte Alliance, il y a une exigence. Tu feras ceci ou tu ne feras pas ceci. Tu feras ceci si tu ne veux pas être condamné et mourir. Et tu ne feras pas ceci si tu ne veux pas être condamné et mourir. Et la notion de grâce, ce n'est pas du tout « Tu ne feras pas ceci ou tu feras ceci. » Donc, ça veut dire quoi? Que la transgression de cette Sainte Alliance entraînait la malédiction. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Mais la bonne nouvelle, la nouvelle alliance repose sur le sang de Christ. Et c'est tout suffisant. On n'a pas autre chose à faire que de mettre notre foi, placer notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ comme le paiement pour nous racheter de nos péchés. Donc, rappelons-nous, chers frères et sœurs, que la coupe de bénédiction symbolise notre communion et cette communion, c'est autour de la personne de notre Seigneur avec les frères et sœurs qui sont en communion avec lui. Nous passons maintenant à l'explication du symbole de notre communion. L'explication du symbole de notre communion, donc dans le verset 16 de 1 Corinthiens 10, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il y a la leçon spirituelle qui est enseignée par ce passage, c'est contenu dans le mot communion. Avez-vous remarqué? La coupe de bénédiction n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Donc le mot-clé ici, le symbole représente la communion. Et donc la communion, il ne faut pas oublier, a deux significations, soit avoir quelque chose en commun ou en partage avec quelqu'un. Donc le repas du Seigneur est une expression de la communion établie par le sang versé par le don de son corps en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et par l'acte de notre participation au repas du Seigneur, nous démontrons que nous sommes en communion d'une part avec le Seigneur et d'autre part avec son corps qui est formé de tous les croyants, souligné par le mot-clé, la communion. Et donc Paul va maintenant rendre beaucoup plus clair cette vérité. Il va se servir d'un exemple de leur vie passée qu'étaient ces Corinthiens avant de venir au Seigneur. Avant leur conversion, nombreux chrétiens de Corinthe avaient été païens, idolâtres. Et vous savez, en ce moment-là, Paul va se servir de leur pratique idolâtre pour enseigner la vérité de la communion représentée par la Sainte Seine. En ce moment, quand ils étaient encore idolâtres, ils étaient unis avec, ça c'est le mot communion, avec les idoles qu'ils vénéraient. C'est pas les idoles, mais plutôt les démons qui se cachaient derrière les démons. Et comment ils faisaient, ces chrétiens, avant de le devenir, quand ils étaient idolâtres? Ils participaient à des sacrifices d'animaux, et c'était des actes sociaux à l'époque, autour de la cité, et la négliger, c'était dangereux parce que ça vous écartait de la société, et vous risquez la vindicte des dieux sur toute la communauté qui va se venger si vous ne le participez pas. Donc, pour eux, c'était difficile de se dissocier de ces cultes païens. Et Paul ici est en train de leur dire, je me sers de cet exemple, comment vous fonctionnez dans votre rite païen, et comment les juifs fonctionnaient avec le culte lévitique, et pour montrer le symbole de la communion maintenant pour les croyants en Jésus-Christ. Il y a quatre choses qu'il faut retenir qui englobent la communion. Et ce que nous voyons dans ce verset, d'abord, il y a le lieu où ça se passe. Donc, pour les chrétiens, c'est l'assemblée. Pour les juifs, c'est l'autel. Et pour les païens, c'est le temple païen. Donc, il faut, pour la communion, quatre choses. Le lieu, l'objet, pourquoi on fait cette vénération. D'abord, l'objet, c'est le Seigneur, pour les chrétiens, l'Éternel, pour les juifs de l'Ancien Testament, et les démons, pour les idolâtres, dont un Corinthien, dont nous parlons ici. Et donc, pas seulement le lieu et l'objet, mais aussi les participants. Les participants, c'est-à-dire, pour les croyants, pour le Nouveau Testament, le peuple d'Israël, et les idolâtres païens, ce qu'étaient ces Corinthiens avant de se convertir. Et dernière chose, c'est les éléments pour symboliser la communion. Pour les chrétiens, c'est le pain et la coupe. La coupe de bénédiction, le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ? Donc la coupe et le pain pour les croyants, 1 Corinthiens 16. Les animaux sacrifiés, ça c'est pour les juifs, dans le culte lévitique. Lévitique 7, 25, vous pouvez regarder. Et pour les idolâtres, qui étaient ces Corinthiens avant de se convertir, ils avaient une coupe aussi des animaux, et c'est ce qu'on appelle les viandes sacrifiées aux idoles qu'on vendait dans le marché après. Et Paul va régler des problèmes aussi avec l'église de Corinthe concernant ce sujet. Donc vous voyez, Paul est en train d'expliquer ici, donc, en se servant de la communion, l'image de ce que c'est la communion. On a besoin d'un lieu de communion, de l'objet pour la communion, les participants à la communion et les éléments qui représentent la communion. Quelle est la leçon? La leçon ici, c'est que quand vous participez au repas du Seigneur, pour les croyants, vous démontrez ainsi la réalité spirituelle que vous êtes unis, vous êtes en communion avec la personne objet du repas, c'est-à-dire le Seigneur. Je répète, quand vous participez au repas du Seigneur, pour nous les croyants, nous démontrons la réalité spirituelle que nous sommes unis avec le Seigneur, qui est le Seigneur du repas, ainsi qu'avec ceux qui sont unis avec lui, c'est-à-dire le corps de Christ. Vous voyez là? Revenons, le même principe appliqué maintenant pour les idolâtres. Quand vous participez au sacrifice pour les idoles, pour les idolâtres, vous démontrez ainsi la réalité spirituelle que vous êtes unis ou en communion avec les démons, ainsi qu'avec tous ceux qui sont unis à lui. Vous voyez toujours? Et Troisième chose que Paul explicite dans ce passage aussi, de la même manière pour les Juifs, hein, chaque Israélite qui participait sur l'autel au sacrifice rituel de l'Ancien Testament démontrait ainsi la réalité spirituelle qu'ils sont unis avec l'Éternel. Et ils manifestaient ainsi leur communion avec Dieu. Donc l'enseignement de Paul est clair. Il prend trois cas bien précis. Et dans ces trois cas, c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Et donc le repas, c'est un symbole d'une communion avec le Seigneur et la communion de tous ceux qui sont les croyants avec le Seigneur lui-même. C'est ça ce qu'il est en train de dire ici. Mais parlons des idoles. Ça, c'était les Corinthiens avant leur conversion. Mais n'oublions pas que nous aussi, nous pouvons avoir des idoles dans nos vies, hein, sans parler d'aller être idolâtres et de verser des sangs des animaux. Non, loin de là. Mais nous avons des idoles attachées à notre cœur. La gloire, la réussite, nos biens, nos enfants, plein de choses. Parce que nous voulons tenir le Seigneur dans une main et nous voulons tenir les idoles dans l'autre main. Quand nous allons prendre la Sainte Cène, nous allons nous détacher de toutes ces choses et de confesser nos péchés. Oh Seigneur, c'est vrai, je suis croyant, mais bon, j'ai quand même ces choses que je ne veux pas détacher de moi. Important. Mais je veux te servir. Mais on ne peut pas avoir un cœur 50% pour les idoles et 50% pour le Seigneur. Dieu veut un cœur tout entier pour lui. Tout entier pour lui. Et donc, prions que le Seigneur puisse nous détacher de ces idoles qui refroidissent notre amour et notre ardeur pour Jésus-Christ. Et d'avoir un cœur entier loyal à notre Seigneur. Ça, c'est l'enseignement que nous voulons transmettre, hein, que nous sommes de tout cœur avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs, en communion avec lui, en prenant la scène. Et nous allons terminer par le troisième point, c'est la singularité du symbole de notre communion. Ce qui me frappe, c'est pour ça que j'ai mis la singularité, c'est la coupe au singulier, le pain au singulier, un seul corps. C'est que les éléments nous rappellent le sacrifice unique de notre bien-aimé Seigneur et c'est un sacrifice qui ne sera jamais répété, accompli une fois pour toutes, comme il nous est rapporté en Hébreux 10:12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Quelle sérénité! Quel repos pour les croyants de s'appuyer sur ce qu'a fait Jésus-Christ, le seul sacrifice que Dieu accepte, qui satisfait les exigences de sa justice et qui est le paiement pour que Dieu nous déclare juste, tout simplement en plaçant notre confiance dans ce que Jésus-Christ a effectué une fois pour toutes pour nous. Il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Nous formons un seul corps, ça veut dire que quand j'en prends la scène, je ne prends pas seul le repas du Seigneur, mais avec mes frères et sœurs en Christ. C'est pour ça que je vous ai envoyé les annonces. Attention, le premier dimanche du mois, mettons tout de côté et nous allons regarder, contempler ce que le Seigneur a fait pour nous, pour venir encore préparé à reconnaître et le louer pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que nous allons voir, faire dans quelques instants. On ne prend jamais tout seul le repas du Seigneur, mais toujours avec ses frères et sœurs en Christ, parce qu'il reflète la communion avec notre Seigneur et notre communion les uns les autres avec le Seigneur. En effet, tous ensemble, nous formons un seul corps. Selon 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes ensemble unis à Christ dans son corps que constitue l'Église. Nous avons une part en commun avec Dieu par le sacrifice de Christ. Troisième chose que je vois aussi ici, que chacun individuellement étant membre du corps participe à un même pain, c'est-à-dire que nous venons tous à la même table, hein, parce que le Seigneur est mort pour nous tous. Nous venons tous à la même table, il n'y a pas plusieurs tables, mais une seule table, hein, et que tous participent parce que le Seigneur est mort pour chacun de nous tous. Et dernière chose à souligner, le verset 17 nous enseigne également que les saints, les croyants manifestent leur communion les uns avec les autres par cet acte de rompre collectivement le pain. Donc, on manifeste, comme il a été le sujet de ce message, la communion, non seulement avec le Seigneur, la communion les uns avec les autres. C'est pour cela que les Corinthiens a été reproché par Paul, là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, et il est dit même qu'il y en a quelques-uns qui sont malades et morts, tout simplement parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas considéré, en prenant la scène, l'aspect du corps du Seigneur, qui est l'Église. En résumé, nous faisons connaître publiquement par le repas notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ ainsi qu'à nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, combien notre privilège de prendre part au repas du Seigneur est grand, mais aussi notre responsabilité. Que quelques pensées puissent développer nos affections pour notre Seigneur, pas seulement lorsque nous participons au repas du Seigneur ou prenons la scène, mais bien toute notre vie. Toute notre vie, hein, que ça soit une réalité. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour ces quelques pensées. Peut-être que je n'étais pas très explicite, mais je sais que l'Esprit de Dieu qui parle, ce n'est pas moi, et qui utilise sa parole pour éclairer nos pensées. Nous sommes devant quelque chose de grandiose. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu veut une communion. Ça, c'est quelque chose qui nous frappe aussi. Avec des pécheurs que nous sommes, mais justifiés en Jésus-Christ. Et tu veux prendre cette communion, être avec ton peuple. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Quand nous prenons la Sainte Cène, c'est que nous sommes en communion réelle. Ce n'est pas une factice. C'est quelque chose de réel avec notre Seigneur Jésus-Christ que nous symbolisons par ces deux éléments dont le Seigneur nous a commandé jusqu'à ce qu'il revienne. Et que tu sois loué, Père. Donne-nous d'avoir un cœur reconnaissant, un cœur qui loue le Seigneur pour ce sacrifice immense qui a coûté cher à Dieu notre Père. Que tu puisses nous renouveler chaque jour de reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous. Nous qui méritons l'enfer, nous qui méritons la mort, et tu as été gracieux, miséricordieux, comme rappelait ce matin notre frère avec ce passage de Deutéronome, jusqu'à 1000 générations. Oui, nous sommes compris dans cette génération parce que nous sommes les fils d'Abraham, hein, fils de la promesse, ceux qui ont placé comme Abraham sa foi aussi en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour toutes ces choses. Et bénis ce moment solennel pour ton peuple ce matin, et que ton nom soit glorifié. Amen.